VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est 19h30 et TU, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 29 juin 2017. John Linden en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, en RDC, les festivités marquant le 57e anniversaire de l'indépendance n'auront pas lieu demain. Kinshasa évoque des raisons de sécurité. Escroquerie au Bénin, ouverture ce jeudi d'un procès très attendu devant la cour d'assises. Montage contre le gouvernement légal de la Guinée équatoriale, ainsi Théodorin Obiang qualifie son procès en France. Rencontre au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ce sera les 7 et 8 juillet prochains en Allemagne, en marge du G20. Et puis nous retrouverons Yacouba Ouédraogo pour les sports, l'Allemagne bien partie pour jouer la finale de la Coupe des Confédérations en football. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Au Bénin, un procès très attendu s'est ouvert ce jeudi devant la cour d'assises de Cotonou concernant l'escroquerie d'ICC Services, décrite comme le plus gros scandale financier du pays. Sur les 20 accusés attendus devant la barre, 10 seulement se sont présentés. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Le procès sur le dossier des structures illégales de placement d'argent appelé ICC Service a démarré le mardi 27 juillet et s'est limité juste à la composition de la cour. Les débats ont démarré ce jeudi. Tout porte à faire croire qu'on n'est pas à un procès de crime banal. Sale comble, l'avocat en nombre impressionnant, banc des accusés fournis, la grande messe sur la vérité du dossier ICC Service a déployé ses vrais attributs au petit matin de ce jour. Les accusés de ce procès ont pour la plupart la particularité de briller par leur apparence. Le confort et le luxe qu'ils affichent contrastent avec la routine quelque peu misérable qui gagne habituellement le banc des accusés. Tenu à sortie, à lui confiante, l'air rassuré, il n'avait pas vraiment l'esprit perturbé. Dans la cour du tribunal de Cotonou, des centaines de Béninois patients de connaître la fin de cette affaire qui dure depuis 7 ans. On parle de plus de 150 milliards de francs CFA appartenant à des Béninois toutes catégories socio-professionnelles confondues. Des Béninois qui ont cru qu'en déposant leur économie à ICC Service, elle le sera retournée avec des pourcentages faramineux. Au moment où le scandale avait éclaté, bien d'autorités avaient été éclaboussées, mais sans que des preuves suffisantes soient apportées pour prouver leur culpabilité. Ce procès aura pour mission de lever un coin de voile sur le mystère qui perdure. De Cotonou, Ginette Fleur a donné pour VOA Afrique.
La présidence burundaise a assuré jeudi avoir foi au nouvel envoyé spécial de l'ONU, Michel Kafando, tout en l'avertissant qu'un penchant pour l'opposition ne serait pas toléré. Monsieur Kafando, ancien président du Burkina Faso, a été nommé émissaire de l'ONU au Burundi en mai dernier. Il effectue sa première visite dans ce pays alors que le processus de sortie des crises est au point mort. Bujumbura refusant de discuter avec son opposition en exil, qu'elle accuse d'être derrière les violences qui minent ce pays depuis 2015. En République démocratique du Congo, les festivités pour le 57e anniversaire de l'indépendance n'auront pas lieu demain pour des raisons sécuritaires. Le point avec Solange Niamoulissa.
Jean-Pierre Kambila, directeur de cabinet adjoint du président Joseph Kabila, a confié à Reuters qu'il n'y aura pas de parade militaire pour des raisons de sécurité sans donner plus de précisions. Les parades ont déjà été annulées en 2012 et 2013 pendant la guerre contre les rebelles du M23. Aujourd'hui, un commissariat de police a été attaqué dans le centre de Kinshasa. Les combats avec la milice Kamuina-Nsapu dans les Kasaï centrales ont fait plus de 3000 morts. Dans le Nord Kivu, le gouverneur Julien Paluku dit craindre une reprise de la guerre. Des milliers de détenus se sont évadés, dont 4000 de la prison centrale de Kinshasa et près d'un millier de la prison de Beni. Le président Joseph Kabila est resté au pouvoir à la fin de son mandat en décembre. L'opposition l'accuse de retarder délibérément la tenue de l'élection présidentielle. Le gouvernement dit que ces retards sont liés à la lenteur des opérations d'inscription des électeurs et au déficit financier.
Le parquet général de la République démocratique du Congo a retiré à l'opposant Moïse Katumbi l'autorisation d'expatriation qui lui avait été accordée en mai 2016 pour raisons médicales. Monsieur Katumbi a été depuis condamné à RDC à 3 ans de prison pour une affaire immobilière. Il a par ailleurs porté plainte le 2 juin auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU à Genève contre le gouvernement de Kinshasa qu'il soupçonne de vouloir l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle théoriquement prévue avant la fin de l'année. Toujours en RDC, un commissariat de police a été attaqué cet après-midi dans le centre de Kinshasa. Des habitants ont fait état d'une forte présence de forces de sécurité à Matongé. Des tirs nourris ont été entendus pendant plus de 30 minutes. Il n'y avait pas moyen de sortir, a témoigné un habitant de ce quartier. Nigeria, Ayo Fayose, gouverneur de l'État d'Ekiti au sud-ouest du pays, a réclamé la démission du président Muhammadu Buhari 2 mois après son départ pour Londres où il est soigné pour une maladie qui n'a pas été dévoilée. Il est temps que le président jette l'éponge et démissionne et permette au pays d'aller de l'avant, a-t-il déclaré devant des journalistes. Le président Buhari, 74 ans, a été vu en public la dernière fois, le 7 mai, date à laquelle il a quitté Abuja pour Londres pour un traitement médical. 4 Nigérianes ont décidé de poursuivre devant les tribunaux néerlandais le géant pétrolier anglo-néerlandais Shell. Elles accusent la compagnie de complicité dans les exécutions de leur mari par l'armée nigériane dans les années 1990. Bagassi Koura.
La plainte en civil a été introduite par Esther Kiobel, la veuve de Barinem Kiobel, qui a été pendue en 1995 avec l'écrivain et militant Ken Saro Wiwa et 7 autres militants. 3 autres veuves se sont jointes à cette poursuite à La Haye. Selon Amnesty International, le rapport qui devrait être déposé devant le tribunal civil accuse Shell d'avoir été complice, je cite, « lors de l'arrestation, la détention et de l'exécution illégale de 9 hommes qui ont été pendus par le gouvernement militaire dans les années 1990 ». Fin de citation. Ken Saro Wiwa, président et fondateur du mouvement pour la poursuite du peuple Ogoni, et 8 autres militants avaient été exécutés le 10 novembre 1995 après qu'un tribunal militaire les a condamnés pour le meurtre de 4 chefs traditionnels. Shell aurait aidé à l'arrestation de ces hommes qui avaient cherché à perturber pacifiquement l'exploitation du pétrole à cause de ses impacts sur la santé et l'environnement dans la région.
Le président français se rend dimanche à Bamako au sommet du G5 Sahel où il annoncera un effort de la France pour soutenir la création d'une force conjointe de l'ordre des 5000 hommes pour lutter contre le terrorisme. Emmanuel Macron annoncera durant ce séjour les modalités exactes de ce soutien en équipement, mais pas en troupes supplémentaires pour Barkhane, selon l'Élysée. L'Union européenne a par ailleurs déjà promis de débloquer 50 millions d'euros pour soutenir le G5 Sahel. Au Cameroun, après une courte audience au tribunal militaire, le procès des 3 leaders de la contestation anglophone a été renvoyé au 27 juillet en raison de l'absence d'un des assesseurs. Félix Agbor Nkonko, avocat, Neba Fontem, enseignant, et Manchot BBC, animateur de radio, sont poursuivis avec 24 autres militants pour terrorisme, hostilité contre la patrie et rébellion. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, fils du président équato-guinéen, a qualifié jeudi de montage contre le gouvernement légal de la Guinée équatoriale son procès en France dans l'affaire dite des biens mal acquis. Il a réagi pour la première fois à marge du Forum panafricain de la jeunesse.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les nouvelles restrictions d'entrée aux États-Unis prévues par le décret anti-immigration de Donald Trump doivent entrer en vigueur aujourd'hui, mais un grand flou règne sur leur champ d'application. Lionel Gaïma.
C'est la protection de la nation contre l'entrée des terroristes étrangers aux États-Unis. Donald Trump l'a annoncé hier, une deuxième tentative pour son décret sur l'immigration. Après des mois de controverses, le texte entre en vigueur. Il interdit temporairement l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 6 pays musulmans, Syrie, Libye, Iran, Soudan, Somalie et Yémen, et aux réfugiés du monde entier. La mesure est censée prévenir l'arrivée des terroristes étrangers sur le sol américain. Le haut magistrat ont toutefois tempéré lundi sa portée car ce texte ne s'appliquera pas à quiconque venant de ces pays et qui pourra justifier une relation valable avec une personne ou une entité aux États-Unis. Quelqu'un venant rendre visite à un membre de sa famille proche sera admis, tout comme le sera un étudiant inscrit dans une université américaine ou un salarié d'une entreprise locale ou encore un professeur invité à donner une conférence aux États-Unis. Cependant, plusieurs questions restent sans réponse. Comme définir la notion de raison valable? Ce flou inquiète les opposants et la Cour suprême va revenir sur le fond de ces décrets en octobre prochain.
Le président américain Donald Trump rencontrera pour la première fois son homologue russe Vladimir Poutine à marge du G20 prévu les 7 et 8 juillet à Hambourg en Allemagne. C'est ce qu'annonce ce jeudi la Maison-Blanche. Comme le président l'a indiqué, il voudrait que les États-Unis et les dirigeants des pays occidentaux dans leur ensemble développent une relation plus constructive avec la Russie, mais il a aussi clairement indiqué que nous ferons ce que nous pourrons. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Timothée Donamaï.
Coup de gueule des détenteurs de la dette souveraine du Mozambique qui estiment qu'il ne revient pas à l'État mozambicain de garantir les prêts consentis aux entreprises d'État. Ces dettes doivent être liquidées pour assainir les finances publiques du pays et lui permettre d'accéder à de nouveaux financements, estiment les créanciers de l'État mozambicain. Lourdement endetté, le Mozambique a publié le week-end dernier les résultats d'un audit révélant des prêts de 2 milliards de dollars consentis à trois compagnies publiques mozambicaines. Le gouvernement tanzanien a introduit trois propositions de loi qui lui permettraient de renégocier les contrats des compagnies minières et d'énergie ou au besoin de les annuler, des mesures qui accroissent l'inquiétude des investisseurs. On ignore pour l'heure leur impact sur un projet gazier de 30 milliards de dollars ou sur le secteur minier en proie à des difficultés et qui génère 3,5% du PIB de la Tanzanie. Enfin, pédale douce de la Banque centrale marocaine qui a décidé de différer de quelques jours la première phase de sa décision de laisser flotter le cours du dirham, la monnaie nationale.
Une musique qui ne trompe pas, Yacouba Ouédraogo est dans ce studio et c'est pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On se dirige vers une finale Allemagne-Chili en Coupe des Confédérations.
Certainement, puisque jusque-là, à 5 minutes de la fin de cette demi-finale Allemagne-Mexique, c'est la Mannschaft qui mène 3-0 grâce à un doublé matinal de Léon Goretzka à la 6e et à la 8e, puis un but de Timo Werner à la 58e.
Abdulrazak Alfaga, champion du monde de taekwondo.
Il a fait, John, le Nigérien de 22 ans, vice-champion olympique dans la catégorie des plus de 87 kilos, a remporté la finale aujourd'hui même en Corée du Sud face au Britannique Mahama Show. Abdulrazak Alfaga a gardé son sang-froid et a battu son adversaire 9-4. Auparavant, il a dominé le redoutable Gabonais Anthony Ombam en demi-finale.
On connaît les premiers qualifiés pour les demi-finales de la Coupe COSAFA.
Oui, sans surprise, dans ce tournoi d'Afrique australe, l'Angola et la Tanzanie, déjà leaders du groupe A, s'en sont tirés à bon compte dans les derniers matchs de poule. Les Malawites et les Angolais ont fait un match nul de 0 but partout, insuffisant pour le Malawi, dont la voiture s'arrête en phase de poule. L'île Maurice est aussi out après son match nul 1-1 contre la Tanzanie.
Et puis Enyama Esliti, pas dans les plans de Bielsa.
Oui, nommé entraîneur de Lille la saison dernière, Marcelo Bielsa a pris fonction. Logiquement, le technicien argentin est arrivé avec un nouveau projet, un projet qui écarte certains joueurs, dont Vincent Enyama et Naïm Sliti. Le gardien nigérian et l'attaquant tunisien ne vont reprendre l'entraînement que le 3 juillet prochain, soit 15 jours après le reste de l'effectif.
Une note triste dans ce journal, Yacouba, lui, Nicolas est décédé.
Effectivement, l'emblématique président du Montpellier Hérault Sporting Club est mort aujourd'hui même, le jour de ses 74 ans, après avoir fait un malaise dans l'après-midi. Loulou, comme on l'appelle affectueusement, est un personnage emblématique du football français. Il a créé en 1974 le club Montpellier La Paillade, devenu Montpellier Hérault de Sport Club, et l'a conduit du niveau amateur jusqu'au titre de champion de France en 2012.
Alors, merci beaucoup Yacouba. On voit l'Allemagne qui continue de jouer. Le Cameroun aurait pu être là.
Bye-bye. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Cap à présent au dossier du jour et on commence par la RDC. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est entendu sur une baisse de plus de 600 millions de dollars du budget des casques bleus dans le monde. La mission onusienne en RDC et celle du Darfour seront affectées. Comment cette coupe budgétaire pourrait affecter la situation politique et sécuritaire en RDC? Abdourahmane Dia a posé la question à Henri-Christian Longenja, président du Comité des droits de l'homme.
Aujourd'hui, la MONUSCO dans notre pays est vraiment un acteur qui intervient beaucoup. Vous voyez, notre pays maintenant est en plein processus électoral. Et que souvent, l'argument que le gouvernement donne pour ne pas organiser des élections, c'est le financement, des moyens logistiques et tout ça. Et c'est grâce à la MONUSCO qu'à certains coins du pays, parce que la RDC étant tout un petit continent, il y a des endroits vraiment inaccessibles, mais c'est grâce à la logistique faite par la MONUSCO qu'on peut accéder à certains endroits.
Mais sur le plan sécuritaire, quand on voit ce qui se passe à Beni et dans le Kassai, les tueries qui se poursuivent et souvent la MONUSCO qui est accusée de passivité, vous pensez que cette baisse aura quand même un impact puisque les tueries se poursuivent quand même?
Oui, la MONUSCO, bien sûr. Nous tous nous l'accusons de passivité, c'est-à-dire dans les méthodes, parce que souvent la MONUSCO qui a des moyens fait passer d'abord les FARDC qui n'ont pas de moyens devant et la MONUSCO ne vient qu'après. Mais au moment où elle a des moyens, elle fait comme ça. Mais maintenant que si elle n'a pas assez de moyens, ça sera encore plus pire. Parce que toutes ces tueries, que ce soit à Beni, à Butembo, au Kassai, de tout à l'heure au centre-ville de Kinshasa, les balles ont crépité il y a même pas une heure. Alors donc, tout ça, la présence de la MONUSCO est quand même un peu dissuasive. Quand bien même nous l'accusons de passivité, parfois au niveau des méthodes, parce que souvent, qu'est-ce que la population voudrait voir? C'est voir la MONUSCO parfois au front.
Mais on a quand même la force de réaction rapide des Nations Unies qui est une force offensive, différente un peu du maintien de la paix. Quel est son impact sur place?
Bon, par rapport à la force des Nations Unies, l'impact n'est pas encore tellement ressenti. Parce que ce que les gens veulent, c'est quoi? Voir qu'il y a des assaillants, mais qui sont du moins repoussés par cette force. Parce que, je prends l'exemple à Beni, nous sommes arrivés une fois pour voir la situation à Beni après les massacres. Mais qu'est-ce que nous avons trouvé? En arrivant dans les quartiers généraux de la MONUSCO, ils avaient tout. Mais de l'autre côté, en face, là où se trouvaient les FARDC, ils n'avaient presque rien, pas même à manger. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a une attaque comme ça, la MONUSCO demande aux FARDC de prendre les devants et elle vient après. Donc c'est là où nous les condamnons souvent.
Henri-Christian Longenja de la société civile congolaise.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
En France, trois associations ont déposé une plainte visant la banque BNP Paribas pour complicité de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Rwanda. Environ 25 dossiers liés au génocide de 1994 au Rwanda sont instruits en France où se sont réfugiés plusieurs auteurs présumés. Idriss Fall a joint à Paris Marie-Laure Guislain de l'association Sherpa.
Pour des faits donc nous qualifions de complicité de génocide, complicité de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Vous prenez sur quoi pour avancer vos accusations?
Alors BNP aurait été la seule institution à accepter de financer 1,3 million de dollars du compte de sa cliente, la Banque nationale du Rwanda, donc la banque centrale de l'époque du génocide rwandais, alors que nous sommes en juin 1994, en plein génocide, et que l'embargo sur les armes de l'ONU a été adopté un mois plus tôt. Donc ce transfert a été fait sur le compte d'un courtier d'armes sud-africain, M. Ehlers, qui s'est ensuite rendu aux Seychelles et aurait donc acheté 80 tonnes d'armes en présence d'un colonel Hutu, le colonel Bagosora, qui depuis a été condamné pour génocide. Et s'en est suivi donc deux livraisons d'armes qui ont été acheminées au Rwanda via Goma.
Et pourquoi avoir attendu 23 ans ?
Parce qu'il a été très compliqué de rassembler les documents et de caractériser juridiquement la plainte. Et parce qu'il nous semble important aujourd'hui en France de rappeler aux nouveaux élus la potentielle implication des institutions financières dans les zones de conflit, dans des graves crimes tels que celui-ci, et de rappeler aussi l'importance de la loi française qui vient d'être adoptée sur le devoir de vigilance des multinationales qui, précisément, appliquée aux banques, permettrait d'éviter ce type de drame, ce type d'implication des institutions financières dans de graves violations des droits humains.
Mais ce n'est pas la première fois qu'il y aura procès en France concernant le génocide au Rwanda, mais beaucoup de ces procès ne sont allés nulle part.
C'est la première fois qu'une plainte est déposée sur ce fondement contre une banque en France. La plupart des responsabilités qui ont été invoquées jusqu'ici sont invoquées à l'encontre de militaires ou d'institutions étatiques. Et pour nous, cette plainte est une première et doit rappeler qu'il ne faut pas oublier la responsabilité des acteurs privés, des investisseurs privés dans les zones de conflit.
Marie-Laure Guislain de l'association Sherpa.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Après les violences qui ont éclaté à Al-Oussema, dans le nord du Maroc, le premier ministre Saad Eddine El Othmani a exhorté la population locale à coopérer. Pour comprendre la persistance des manifestations et expliquer les raisons pour lesquelles la contestation ne se concentre que dans la région du Rif, Dilidiko a joint à Casablanca Mohamed Sian, ancien ministre des Droits de l'Homme et avocat du leader de la contestation.
95% des gens arrêtés ou des gens violentés appartiennent à cette région. Ce qui fait que les familles des détenus, les familles des gens qui ont été violentés dans les rues, animent la contestation. Des autres régions n'ont pas connu des arrestations si massives. J'ai connu la région de Husseima et de Inzourine particulièrement.
À ce stade, en fait, les demandes ont évolué. Les contestataires demandent que les personnes arrêtées soient libérées et ce n'est plus de l'ordre du développement.
C'est normal. Quand nous sommes tous sortis dans la rue pour des revendications d'ordre économique et social et qu'une centaine ou quelques centaines d'entre nous sont arrêtés, on se sent solidairement obligés à exiger d'abord la libération de nos confrères, de nos amis, des activistes. Et avec nous, on fait la contestation. C'est très normal, c'est logique.
Pourquoi ces manifestations populaires continuent-elles alors que le roi a bien réprimandé ses ministres pour la non-exécution des projets de développement dans les délais qui étaient prévus?
Parce qu'il y a eu des prisonniers. S'il avait fait ça avant les arrestations, peut-être que la situation se serait calmée. On a commencé d'abord par arrêter des gens. Rien qu'à Casablanca, il y a 53 détenus avec le chef de file Nassar Zafi. Et à Al-Husseima, il y a une centaine de personnes. C'est beaucoup trop.
Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique que l'État marocain ait choisi en fait, d'adopter une posture aussi sécuritaire en réprimant les manifestants?
Il a fait la politique du bâton et de la carotte. D'une part, il reconnaît que les projets qu'il avait, que Sa Majesté le Roi avait inaugurés étaient des projets fictifs et peut-être ne seraient même pas réalisables parce qu'il y a des problèmes d'ordre juridique sur le foncier ou de financement ou de rentabilité. Quand même, c'est un peu grossier de mettre le chef de l'État dans cette situation. Et d'un autre côté, c'est le bâton, c'est-à-dire j'arrête, je frappe, je cogne et je condamne les manifestants. Les manifestants étant des jeunes entre 18 et moins de 30 ans.
Vous êtes aussi l'avocat de Nasser Zefzafi, qui est en fait le chef de file de cette contestation. Quelle est la situation actuellement pour lui?
Les conditions de détention s'améliorent. Hier, il a reçu le droit d'avoir une télévision dans sa cellule. Et puis, on lui a ouvert la bibliothèque de la prison. J'espère que bientôt, il aura le téléphone pour pouvoir communiquer avec sa famille et les siens. Mais il est poursuivi à peu près pour tous les articles du Code pénal, à l'exception de l'adultère, parce qu'il n'est pas marié.
Mohamed Zian, ancien ministre des Droits de l'Homme au Maroc.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, les mesures migratoires du président Donald Trump visant les ressortissants de 6 pays musulmans entrent en vigueur à minuit. La Cour suprême a décidé lundi qu'elles peuvent être partiellement appliquées en attendant qu'elles statuent en octobre. Pour un éclairage, Timothée de Nangmaï a contacté à Silver Spring dans l'État du Maryland, Maître Joseph Fa, avocat spécialiste de l'immigration.
Par rapport à la recevabilité des dossiers au niveau de la Cour suprême, il faudrait que les juges de la Cour suprême acceptent. Ce n'est pas de droit, il faudrait qu'ils acceptent parce qu'on appelle le séjour pour accepter de statuer sur l'affaire. Et effectivement, ils ont accepté de statuer sur l'affaire. Et en acceptant de statuer sur l'affaire, il y a une partie du travel ban qui va entrer désormais en vigueur à partir de cette nuit. Et lorsque la Cour va reprendre session en octobre, ils vont statuer donc sur le reste de la constitutionnalité de ce travel ban par rapport à tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a été décidé par les cours inférieurs.
Alors, vous l'avez dit, cette mesure entre en vigueur partiellement. Qu'est-ce qui va changer?
Ce qui fait que on a 6 pays du Moyen-Orient et les 6 pays arabes, la Libye, je pense la Libye, l'Iran, le Yémen, la Somalie, et je pense qu'il y a la Syrie également. Nous avons ces 6 pays-là qui seront désormais, pas qu'ils ne doivent pas avoir accès aux États-Unis, ceux des membres de la famille, je parle de la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen, ceux qui ont des connexions aux États-Unis auront toujours la possibilité d'entrer aux États-Unis. Ce n'est pas qu'on va interdire à tous ceux-là qui viennent de ce pays de façon automatique d'entrer aux États-Unis, mais il va falloir qu'ils justifient qu'ils ont une connexion aux États-Unis. Si c'est pour la toute première fois que vous entendez parler des États-Unis et vous venez de l'un de ces pays, ce serait difficile pour vous pour avoir un visa durant la durée des 3 mois, parce que je pense que d'ici à octobre, c'est juste une question de quelques mois.
Alors, octobre est une importante échéance dans ce processus.
Oui, seulement en octobre, non seulement la mesure s'était faite pour quelques mois, ce sera expiré, mais également en octobre, la Cour suprême va statuer sur la constitutionnalité de cette décision. Alors, ça ne veut pas dire que parce que la mesure a été en vigueur, que c'est forcément constitutionnel, parce que lorsque la Cour suprême statue dessus, elle peut revenir par rapport à la décision pour dire effectivement c'était contre la Constitution. Ça veut dire que ce genre de... pour empêcher qu'on ait ce genre de reprise ou bien ce genre de loi pour le futur, il va falloir effectivement que la Cour suprême dise si ce genre d'action par le président de la République est constitutionnel.
Maître Joseph Fa, avocat spécialiste de l'immigration à Silver Spring dans le Maryland.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa.
Sam Shinto Sentiment, Allemagne-Chili, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe des Confédérations en football. L'Allemagne vient de battre le Mexique sur le score de 4-1. C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Michel Joseph, Zuckerberg Altaï était à la console. Présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.